VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 21 juin 2015. Au sommaire ce soir.
Procès Jean-Pierre Bemba, la CPI a condamné l'ex-vice-président congolais à 18 ans de prison. Une responsable de son parti, le MLC, réagit.
C'est une déception par rapport à la crédibilité de la Cour. C'est une justice sélective et discriminatoire.
République centrafricaine, les policiers qui étaient pris en otage à Bangui ont été libérés ce mardi.
Leur libération fait suite à plusieurs heures de négociations menées par la MINUSCA et certaines autorités locales du 3e arrondissement.
Au Nigeria, le gouvernement annonce un cessez-le-feu d'un mois avec les rebelles du delta du Niger.
À deux jours du référendum au Royaume-Uni, c'est la fébrilité au sein de l'Union européenne sur l'issue du scrutin.
Dans moins de 10 minutes, le journal de l'Euro.
Mais d'abord, les nouvelles.
Jean-Pierre Bemba Gombo, condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale lui a infligé cette peine aujourd'hui. Éric Manirakiza nous en dit plus.
La sentence a été annoncée en audience publique. La juge Sylvia Steiner a énuméré les 5 chefs d'accusation retenus contre l'ancien vice-président congolais avant de prononcer la peine.
La Chambre impose la sentence la plus élevée de 18 ans pour viol et constitue la peine totale contre M. Bemba.
Jean-Pierre Bemba Gombo écope 18 ans de prison, la plus lourde peine qui sera déduite du temps qu'il a passé sous les verrous. La défense a annoncé qu'elle va faire appel. Il avait été reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol perpétré par sa milice en Centrafrique. Jean-Pierre Bemba est la première personnalité de haut rang à être châtié par la Cour pénale internationale. Riche homme d'affaires, M. Bemba s'est converti en chef de guerre à la tête du mouvement de libération congolais, le MLC, qui a commis des bavures à Bangui entre octobre 2002 et mars 2003.
Les avocats de Bemba vont interjeter appel, selon Fidèle Babala, secrétaire général adjoint du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba.
Je vous informe que l'appel a déjà été interjeté hier, en ce qui concerne le jugement de culpabilité. Et aujourd'hui, qu'on vient de rendre un jugement sur la peine, les avocats se prépareront aussi à interjeter appel. Et Jean-Pierre Bemba, quand l'appel sera interjeté, sera toujours présumé innocent, donc en mesure de pouvoir poser sa candidature au moment opportun. Battons-nous d'abord pour avoir les élections dans ce pays, et ensuite on verra.
Fidèle Babala, secrétaire général adjoint du MLC au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À Bangui, les agents de police retenus en otage par des hommes armés dans le quartier musulman de PK5 sont finalement remis en liberté. Une libération qui intervient au lendemain des violences qui ont fait au moins 16 morts et plus d'une vingtaine de blessés dans la capitale centrafricaine. Freeman Sibila.
Selon une source proche des ravisseurs, ces agents de police kidnappés dimanche dans le 3e arrondissement ont été relâchés ce mardi en début de soirée. Leur libération fait suite à plusieurs heures de négociations menées par la MINUSCA et certaines autorités locales du 3e arrondissement. Le ministère de la Sécurité publique a confirmé avoir reçu un message de la part des ravisseurs confirmant la mise en liberté des otages. Le gouvernement qui se réserve de toute déclaration jusqu'à la récupération des 6 policiers. Entre-temps, les accrochages de ce lundi après-midi entre hommes armés et forces internationales au PK5 ont fait au moins 16 morts et plus d'une vingtaine de blessés selon des sources hospitalières. Par ailleurs, des affrontements entre ex-Silika et Peul armés dans les régions de Batangafo et Kagabandoro ont fait dimanche et lundi 16 morts et de nombreux blessés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Nigeria, le gouvernement a annoncé avoir conclu un cessez-le-feu de mois avec des groupes rebelles opérant dans le delta du Niger. Claire Morin-Gibourg.
Cet accord de cessez-le-feu annoncé par le gouvernement d'Abuja inclut les vengeurs du delta du Niger qui ont multiplié les attaques ces dernières semaines dans cette région riche en hydrocarbures. Mais sur leur compte Twitter, les vengeurs du delta ont assuré dans un message ironique que le haut commandement des rebelles ne se souvient pas avoir conclu le moindre cessez-le-feu. Le groupe s'était dit prêt à négocier avec le gouvernement la semaine dernière si des médiateurs étrangers supervisaient les discussions. Les vengeurs du Delta affirment se battre pour une meilleure répartition des recettes dans le Delta du Niger. Ces multiples attaques contre les installations pétrolières ont contribué à la chute de la production de brut à son niveau le plus bas depuis 30 ans. Le pétrole représente 70% des revenus de la première économie africaine.
Un conseiller spécial de l'ancien président Goodluck Jonathan est accusé de corruption. 23 chefs d'accusation ont été retenus contre Wari Pamo Owei Doudafa pour dissimulation et recel de recettes criminelles d'une valeur supérieure à 17,8 millions de dollars. Il a été laissé en liberté sous caution.
Des manifestations ont mal tourné dans la capitale sud-africaine, Pretoria. Les véhicules ont été incendiés et des routes bloquées avec des pierres et des pneus en feu. Les protestataires pose la nomination d'un candidat à la mairie pour les élections locales du 3 août prochain.
Soudan, 6 étudiants arrêtés après une vague de manifestations sur un campus universitaire de Khartoum ont été libérés. Ils étaient détenus sans inculpation par le Service national du renseignement et de la sécurité.
En Israël, des centaines de demandeurs d'asile érythréens ont manifesté près de Tel Aviv. Ils entendent soutenir la commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme dans leur pays.
Libye, la lutte pour Sirte se poursuit. Les forces pro-gouvernementales ont bombardé avec l'artillerie lourde le groupe État islamique. C'est du moins ce qu'affirme le commandement militaire. Les djihadistes sont assiégés dans le centre de leur fief.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'Europe est fébrile à moins de 48 heures du référendum de la Grande-Bretagne pour rester ou sortir de l'Union européenne. Tatiana Mosso.
Quel que soit le choix des Britanniques jeudi, les attentes sont grandes à Berlin et Paris, les deux piliers de l'Union européenne. Le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, promet de garder l'initiative pour éviter une éventuelle contamination en cas de victoire du Brexit. Il a évoqué un budget, un parlement et un commissaire pour la zone euro. Mais concernant l'euro, les divergences et suspicions persistent entre Paris et Berlin. La France peine à contrôler ses déficits, tandis que Berlin refuse l'idée d'une mutualisation des dettes. Les Allemands ont peur de se retrouver avec une France affaiblie et il n'y a pas de consensus sur la politique à adopter le jour d'après. Côté allemand, Wolfgang Schäuble, ministre des Finances, a estimé « quelle que soit l'issue du scrutin, il ne faudra pas dire « continuons comme ça en Europe ». En attendant le vote des Britanniques, l'Institut Montaigne en France a lancé une mise en garde disant que la tentation du statu quo et de l'immobilisme serait simplement un suicide politique.
La Turquie et Israël devraient annoncer bientôt leur décision de normaliser leurs relations diplomatiques. Selon le quotidien turc Hurriyet, un responsable du ministère turc des Affaires étrangères et un envoyé spécial du Premier ministre israélien doivent se rencontrer dimanche afin d'annoncer la normalisation totale des relations. Une brouille existe depuis 6 ans entre l'État hébreu et son ancien allié après la mort de 10 Turcs pro-palestiniens lors d'un assaut mené par des commandos israéliens contre un navire en mission humanitaire près de Gaza.
Des soldats israéliens ont tué ce mardi un adolescent palestinien en Cisjordanie et blessé par balle plusieurs autres adolescents qui seraient pris par erreur, selon l'armée, pour des lanceurs de pierres et d'engins incendiaires. Cet assassinat de sang-froid conforte nos appels à l'adresse de l'ONU pour une enquête immédiate et approfondie sur les exécutions extrajudiciaires israéliennes, en particulier à l'encontre des enfants palestiniens, a dit dans un communiqué Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine.
6 soldats sont morts et 14 autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée le long de la frontière entre la Jordanie et la Syrie, apprend-on de sources officielles à Amman. L'attentat s'est produit à Rukban, une zone où des dizaines de milliers de personnes fuyant la violence en Syrie ont cherché refuge alors qu'elles comptent de regagner la Jordanie. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué.
Pour gagner une élection présidentielle aux États-Unis, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Certains analystes pensent que la campagne de 2016 pourrait coûter plusieurs milliards de dollars aux deux grands partis nationaux, le Parti démocrate et le Parti républicain. Selon des documents publiés aujourd'hui, Hillary Clinton, la candidate probable des démocrates, dépasse de loin son rival républicain Donald J. Trump dans la quantité d'argent collecté et économisé. Les groupes politiques indépendants soutenant Mme Clinton, les Super PAC, ont reçu des dizaines de millions de dollars de plus que ceux appuyant M. Trump. Le milliardaire qui a révoqué hier son directeur de campagne, Corey Lewandowski, a suggéré la possibilité de financer lui-même sa campagne s'il n'arrive pas à mobiliser la machine financière du Parti républicain en sa faveur. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, le journal de l'Euro 2016 avec Bagassi Koura. Alors, salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Les équipes du groupe C sont toutes sur le terrain en ce moment.
Oui, l'Allemagne joue en ce moment contre l'Irlande du Nord. Le score est d'un but à zéro en faveur donc de la Mannschaft. Il reste encore 25 minutes de jeu. Quant à l'Ukraine, elle est menée par la Pologne également 1 à 0. Et puis tout à l'heure dans le groupe D, l'Espagne déjà qualifiée sera face à la Croatie et la République tchèque contre la Turquie.
Il me paraît. J'allais dire, Bagassi, il me paraît que le match Allemagne-Irlande du Nord est déjà à la 84e minute. Alors, toujours pour parler de l'Euro 2016, quelle autre nouvelle ?
Eh bien, le Portugal, incroyable scénario dans le groupe B hier. Le Portugal qui a bien du mal à assumer son statut d'outsider de l'Euro 2016. Deux rencontres et deux matchs nuls pour débuter la compétition. Les Portugais chérubins affrontent demain la Hongrie pour leur troisième match de groupe et doivent absolument s'imposer sous peine d'être éliminés de la compétition. On voit tout ça avec notre correspondant à Paris, Christian Panzou.
Défaite interdite ce jeudi pour les Portugais. Après deux matchs particulièrement soporifiques, le Portugal est déjà dos au mur. Pourtant favori d'un groupe largement à sa portée, la sélection de Cristiano Ronaldo montre un visage bien pâle en comparaison avec les performances réalisées pendant les qualifications. Plusieurs problèmes sont pointés du doigt, avant tout le désordre tactique de l'équipe de Fernando Santos. À plusieurs reprises, le sélectionneur a entrepris des changements de formation, passant d'un 4-4-2 à un 4-3-3 en cours de match. De quoi troubler ses joueurs qui ont parfois des difficultés à se positionner sur le terrain. L'autre problème, c'est l'inefficacité offensive. Le Portugal parvient à se procurer quelques occasions, mais sur les trois attaquants titulaires, seul Nani a ouvert son compteur but. Épuisé par sa longue saison en club, Ronaldo est toujours muet, mais face à la Hongrie, à Lyon, la star portugaise compte bien faire preuve d'orgueil pour relever le niveau de son équipe. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Incroyable scénario dans le groupe B hier soir et le pays de Galles qui chipe la première place à l'Angleterre.
Oui, à l'issue des 90 minutes du match, anglais et slovaque se sont neutralisés 0-0. Un résultat qui ne fait pas l'affaire des deux équipes puisque la Slovaquie se trouve désormais troisième du groupe derrière les Anglais qui sont deuxième. Et en raison de la démonstration galloise, les coéquipiers de Gareth Bale l'ont emporté 3-0 hier à Toulouse. Et donc ce soir, la compétition se poursuit.
Et nous entamons la deuxième semaine de l'Euro 2016, Bagassi Koura. La plupart des grands se sont mis à l'abri, sauf comme le rappelait Christian, le Portugal.
Oui, le Portugal qui n'a pas encore assuré pour sa qualification. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonsoir. À l'entame de la deuxième semaine de compétition, les choses commencent à s'éclaircir. Les grosses cylindrées se sont mises à l'abri ou s'apprêtent à le faire, en dehors d'un Portugal trop activement propulsé favori au soir de son éclatante victoire en amical contre l'Estonie. Or, le Portugal peine à s'exprimer depuis l'opposition de style manquée d'entrée face à l'Islande et qui a laissé des traces. L'équipe, en pleine crise de croissance, a de nouveau balbutié son jeu contre l'Autriche. Et si l'élimination possible de la CELESAO pourrait paraître anecdotique, ses effets collatéraux seraient graves pour son joueur vedette Cristiano Ronaldo. Transparent jusque-là, l'attaquant madrilène qui s'est payé un échec personnel contre l'Autriche doit obligatoirement sortir son joker devant la Hongrie afin de mériter une distinction au Ballon d'Or qui semblait lui tendre les mains depuis la finale de la Ligue des Champions. Ses malheurs font le bonheur de Messi, relancé par la Copa América, voire d'un troisième larron, Andrés Iniesta, brillantissime dans son rôle de véritable numéro 10 au sein d'une équipe d'Espagne qui rayonne. On l'a compris, les grandes compétitions servent de jauge aux meilleurs et nul doute que le champion portugais a saisi le message, car c'est face au mur qu'on reconnaît les grands joueurs. À demain.
Deux matchs en cours à l'instant même dans le groupe C. On rappelle le score, Bagassi Koura.
Oui, 1-0 pour la Pologne face à l'Ukraine et 1-0 pour l'Allemagne face à l'Irlande du Nord.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Nestlé va former 300 000 jeunes Africains sur le continent où le chômage élevé des jeunes pose de graves défis sociaux et économiques, a déclaré ce mardi l'administrateur délégué du groupe suisse Paul Boulke lors d'un forum à Abidjan. Ces formations seront organisées sur des sites Nestlé, dans des salons pour l'emploi et dans des écoles et universités. Le Togo a enregistré en 2015 303 000 touristes pour 26 milliards de francs CFA de recettes hôtelières, a annoncé la ministre du Tourisme Bernadette Leximbalouki à l'ouverture du Forum international sur les investissements hôteliers en Afrique qui se tient à Lomé. Le secteur a généré 78 500 emplois en 2015, selon le rapport 2016 du Conseil mondial de voyage et de tourisme au Togo, qui relève que les dépenses des visiteurs ont atteint 119 milliards de francs CFA. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a perdu 3,7 milliards de dollars hier lors de la chute brutale du Naira qui a plongé de près de 30% face au dollar après la décision du gouvernement de laisser flotter la devise. La fortune de M. Dangote est estimée à 12,7 milliards de dollars, rapporte l'agence Ecofin.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériac et Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir, Morgane, c'est la RDC.
Et réaction à la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison. Son parti, le Mouvement pour la Libération du Congo, le MLC, dénonce une justice sélective et discriminatoire car les véritables protagonistes de la crise centrafricaine n'ont jamais été convoqués à la barre et la lumière n'a jamais véritablement été faite sur les 22 témoins à charge qui ont fait volte-face à la CPI. Pour le MLC, la main des dirigeants de Kinshasa n'est pas non plus innocente. Eddie Sango a joint en RDC le secrétaire général du MLC, Eve Bazaïba.
C'est une déception par rapport à la crédibilité de la Cour. Nous pensions, nous, que la Cour allait savoir que 8 années passées par M. Bemba à la CPI sont assez. C'est vrai que lui-même, M. Bemba, n'était pas sur le terrain.
Certains juristes ont critiqué les avocats de Jean-Pierre Bemba, disant qu'il s'était fourvoyé en avançant l'hypothèse d'un procès politique.
C'est une justice sélective et discriminatoire. Tenez pour exemple, 22 témoins ont écrit à la Cour qu'on leur avait demandé de charger M. Bemba en échange des avantages. Parmi les témoins, il y a des Congolais, caméramènes, journalistes qui étaient pris en charge ici par Kinshasa, en passant par Brazzaville, pris en charge par l'ambassadeur de la RDC à Bangui. Ils ont procédé à des montages des images filmées et des interviews pour charger M. Bemba. Le procureur n'a jamais instruit à des charges. Les principaux protagonistes cités par la Cour le 21 mars, c'est Patassé et Bouzou. MLC était parti là-bas à la demande expresse de M. Patassé. Où sont-ils? On n'a appelé personne. M. Bemba n'était pas dans la chaîne de commandement. Ce que les avocats ont dénoncé, c'est la confusion que fait la Cour entre la notion du commandement d'être responsable des militaires et d'avoir le commandement d'opération.
Il y a un deuxième procès contre Bemba dans lequel il est chargé, lui, d'avoir suborné les témoins aussi.
Mais justement, le 22 témoin dont je viens de vous parler, quand ils ont vu que le procureur Moreno était parti, il a fini son contrat à la Cour pénale internationale. Ils sont allés le chercher pour dire quelle est notre part des contrats. Vous nous avez demandé de charger M. Bemba en échange des avantages. Nous l'avons fait. Moreno leur dira, je ne suis plus concerné par cette question parce que j'ai terminé mon contrat avec la CPI. Le 22 témoins ont dénoncé par écrit. Alors, ils ont fait toutes les démarches pour saisir la défense.
Il y a des enregistrements qui circulent là-dessus, en fait.
L'argent, les dépenses que nous avons fait, la défense a fait pour amener le témoin là-bas à la Cour pénale internationale.
Voilà, c'était Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, jointe à Kinshasa.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur la situation politique et sécuritaire au Mali. Il y a un peu plus d'un an, l'accord de paix et de réconciliation d'Alger était signé par le gouvernement malien et des groupes armés. Mais depuis, les actes terroristes n'ont pas cessé de secouer le pays du nord au sud. Comment assurer le retour effectif de la paix? Quels sont les blocages? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
À Gao, dans le nord du Mali, le bac a débuté hier lundi sous haute sécurité. Quelques 2356 candidats composent dans 7 centres à travers la région. Les conditions de travail et l'insécurité grandissante risquent d'avoir un impact sur les résultats, nous dit notre correspondant Boubacar Touré.
À l'instar des autres régions du Mali, le bac a débuté ce matin avec l'épreuve de philosophie. Quelques 2356 candidats inscrits sur les listes composent dans 7 centres à travers la région. Les épreuves démarrent bien à en croire les candidats interrogés.
La première épreuve a été la philosophie. On peut dire que ça a bien débuté. Pour un débit quand même, on peut dire que ça va. L'organisation, on ne se plaint pas quand même. Nous avons espoir que cette année, il y aura beaucoup de réussite, Inch'Allah.
Bon, les épreuves, ça a été bien passé. J'espère bien que ça va marcher, Inch'Allah.
Bon, après le sujet, c'est pas mal. Avec la chance, ça peut aller.
Après une année scolaire bien remplie, les candidats cette année ont de voir le résultat. Sanou Dabou, directeur adjoint de l'Académie d'enseignement, président du centre lycée Yanamega.
Tout se passe très bien aujourd'hui en termes de déroulement du bac 2016. Nous avons pratiquement un total de plus de 900 candidats, toutes séries confondues au niveau du centre Yanamega. Le début des épreuves quand même nous paraît très promoteur parce qu'une année apaisée, très peu de sorties d'élèves, accompagnés de tous les partenaires, je crois que sincèrement Gao doit être en mesure de relever le défi. Nous devons montrer quand même au monde de l'éducation et à la communauté internationale qui nous accompagne que l'école a repris ses lettres de noblesse à Gao.
Les conditions de travail et l'insécurité grandissante dans la région ont un impact sur le rendement des candidats aux examens. Mohamed Nanout, candidat au bac venu de Ménac.
Il n'y a pas de moyens vraiment spécifiques pour pouvoir nous aider à faire des recherches. Si tu prends la région de Gao, tu ne peux même pas trouver 3 cyber comme ça, tu ne peux même pas les trouver dans une région. On n'a même pas de matériel pour pouvoir préparer les études. Chaque jour, on entend par-ci des gentils, on entend des obis largués chaque matin. Avec cette insécurité, on ne peut même pas. C'est-à-dire, même si on essaie de se préparer, on ne parvient même pas à se concentrer.
Le chef de l'exécutif qui a ouvert la première enveloppe ce matin rassure que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les examens. Saïdou Traoré, gouverneur de la région de Gao.
Tous les centres sont sécurisés, depuis le commandant de zone jusqu'au commandant de légion, jusqu'au commandant de groupement, jusqu'au directeur de la police, jusqu'au préfet. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité et des épreuves et des candidats et du personnel enseignant.
Il faut rappeler que les résultats de l'année dernière au bac étaient seulement de 6,31% de réussite pour toute la région. Gabo Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Les musulmans du Niger, à l'instar de centaines de millions d'autres dans le monde, observent depuis 2 semaines le jeûne du mois du Ramadan. Mais cette année encore, les Nigériens déplorent la cherté des produits de grande consommation. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa s'est rendu dans un des marchés de Niamey, la capitale.
À l'entrée du marché de Wadata, Salamatou tente vainement de convaincre un vendeur de salade qui veut lui céder seulement 3 pieds à 500 francs CFA. Pour elle, c'est le Ramadan qui serait à la base de cette charité. Son panier à moitié rempli, Halima se désole et lance ceci. Rien n'est abordable à l'intérieur. Lorsque l'on y entre effectivement, la confirmation de la charité des produits est donnée par les revendeurs eux-mêmes qui se justifient tout de même.
Je suis commerçant au marché Wadata. Je vends de la tomate, du poivron, du piment vert et de l'aubergine. Les gens pensent que la hausse du prix vient de notre faute, mais quand tu achètes, tu es obligé de vendre cher pour avoir un petit bénéfice. Le prix de kilo de viande avec os est vendu à 2500 600 et sans os à 3000. Les clients pensent que c'est cher, mais bien avant le carême, le prix était le même parce que les bêtas étaient chers.
Devant une telle situation et au vu de la période, cette jeune dame lance cet appel.
Le commerçant, je crois que c'est maintenant qu'ils veulent s'enrichir, quoi. Alors que ce n'est pas le moment. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des musulmans. Rabaisser les prix, on est tous des musulmans. Donc ça va passer, le mois doit passer. Et tout ça qu'on n'a pas eu avant, on ne sait pas dans ce mois qu'on doit l'avoir.
Le carton de sucre, très demandé aussi en cette période de jeûne, est hors de portée des petites bourses. Il se vend à 25 000 francs CFA, soit seulement 5 000 francs de moins que le salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs de la fonction publique. Pourtant, dit-on, le ramadan est une période de bienfaisance par excellence et donc d'allègement. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, au Niger, à Niamey, 24 heures sur 24, sur 102.5 FM.
Le Sénat américain a rejeté un durcissement des lois sur les armes à feu après la mort de 49 personnes à Orlando dans la fusillade perpétrée par Omar Mateen le 12 juin. À un mois des conventions d'investiture présidentielle, il semble improbable que les parlementaires s'accordent sur ce sujet brûlant de la politique américaine dans l'impasse depuis des années. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint Vincent Michelot. Il est professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon.
Il n'y a aucune surprise, surtout dans le contexte politique actuel, où on ne peut pas attendre d'aménagement sur la législation sur le port d'armes avant au moins le printemps, si ce n'est le début de l'été 2017, une fois qu'on aura un nouveau congrès, un nouveau président ou une nouvelle présidente.
Dans la campagne électorale elle-même, quels sont les poids des uns et des autres par rapport à ce débat sur les armes ?
Le débat sur les armes embarrasse le Parti démocrate qui est partagé. On sait qu'un certain nombre d'élus démocrates, par exemple Joe Manchin en Virginie-Occidentale, sont très opposés à une forme de resserrement du port d'armes. Côté républicain, on veut en faire une question de mobilisation des électeurs, en quelque sorte pour les effrayer sur l'éventualité d'un État trop puissant qui priverait les citoyens de leur liberté. Le débat sur les armes va remettre au premier plan la nomination du remplaçant du juge Scalia qui est décédé en février de cette année. Aujourd'hui, la Cour suprême sur ces questions d'interprétation du deuxième amendement est quasiment à égalité, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Celui qui sera nommé pour remplacer Antonin Scalia fera pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et puis, il faudrait aussi que, en parallèle, il y a une évolution dans les États, puisqu'il faut quand même rappeler que ce sont dans les 50 États, autant qu'à l'étage fédéral, que se jouent les questions très concrètes de port d'armes. Il y a aussi la facilité à contourner la législation lorsqu'elle existe ou le peu d'efficacité de la législation telle qu'elle existe. On rappellera simplement, par exemple, qu'entre 1994 et 2004, il y avait une interdiction de fabriquer et de distribuer ces fameux fusils d'assaut qui ont été responsables de tant de tueries aux États-Unis. Et cette interdiction, qui n'a duré que 10 ans et qui n'a pas été renouvelée par le Congrès, n'a pas eu un impact très visible sur le nombre de meurtres par ces mêmes fusils d'assaut.
Le professeur Vincent Michelot, spécialiste de politique américaine.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma est à la mise en onde. Présentation Morgane Yeriak et Chérubin Dorsil.
Merci Sidrac Franklin à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Vous êtes plus de 1 250 000. On maintient la conversation aussi sur voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.